Laudetur Jesus Christus.
Radio Vatican, le journal. Delphine Allaire.
Bonsoir. La capitale russe confrontée à une flambée du Covid due au variant Delta. L'inquiétude gagne ce vendredi la mairie de Moscou qui annonce des restrictions. La ville de 12 millions d'habitants a comptabilisé plus de 9000 nouvelles contaminations en 24 heures. Une situation qui contraint les autorités à prendre de nouvelles mesures, dont la vaccination obligatoire des employés du secteur des services. Moscou, où l'on retrouve Jean-Didier Rovin.
Pour les autorités, cette hausse spectaculaire des nouvelles contaminations est due à l'apparition de nouvelles souches du virus, plus contagieuses et plus agressives. Pour éviter que les services hospitaliers soient débordés, le maire de la capitale a prolongé d'une semaine la fermeture des bars et restaurants de 23h à 6h du matin. Il a également interdit les rassemblements de plus de 1000 personnes. Les fan zones qui permettaient de suivre les matchs de l'Eurofoot ont également dû fermer. Ces mesures viennent compléter la décision plus radicale qu'il avait déjà prise dans la semaine, exiger la vaccination d'au moins 60% des travailleurs qui sont au contact de la clientèle. Une façon d'obliger les employés des secteurs du commerce, de la distribution, des services à la personne, de la santé et des services publics à se faire vacciner d'ici la mi-juillet, sous peine de ne plus être payés. En effet, les Russes rechignent à recevoir leur dose de Sputnik V. À ce jour et depuis le début de la campagne de vaccination entamée en décembre dernier, seuls 20 des 145 millions de Russes auraient été vaccinés. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican.
La Russie, ou pour cause de Covid, les élections législatives se tiendront sur 3 jours au mois de septembre prochain. Annonce tombée aujourd'hui de la commission électorale. Une mesure dénoncée par l'opposition comme facilitant les fraudes. L'armée russe appelée à la rescousse en Crimée. La région subit en ce moment de graves inondations. Toutes les routes d'accès à Yalta sont fermées. Les pannes d'électricité fréquentes et l'état d'urgence a été proclamé. Des pluies torrentielles dues à un cyclone ayant frappé la zone hier. La classe politique polonaise visée par des cyberattaques en série ces derniers jours, selon le chef du parti conservateur au pouvoir, Jarosław Kaczyński, celles-ci proviennent de la Russie, c'est ce qu'il a affirmé aujourd'hui. Avant-hier, le premier ministre polonais s'était réuni à huis clos avec le Parlement sur ce sujet. Les sites d'institutions polonaises ainsi que les boîtes mail de hauts responsables politiques, dont des ministres du pays, ont été concernés. Dernier jour de campagne en Arménie, le pays s'apprête à voter ce dimanche lors de législatives anticipées, un scrutin périlleux pour le Premier ministre qui a brandi le risque d'émeute en cas de victoire de ses opposants. La popularité de Nicole Pachinian est mise à mal depuis la défaite arménienne dans le conflit armé contre l'Azerbaïdjan à l'automne dernier. Nous reviendrons sur les enjeux de ce vote important dans nos prochaines éditions. La région du Caucase était aussi à l'agenda du pape François ce matin. Le Saint-Père a reçu en audience au palais apostolique la présidente de Géorgie, Salomé Zourabichvili. Ils ont évoqué entre autres la contribution de l'Église catholique dans ce pays majoritairement orthodoxe qu'avait visité le souverain pontife en 2016. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken va entamer sa propre tournée européenne la semaine prochaine. À peine rentré de celle du président Joe Biden, le secrétaire d'État américain commencera son voyage par Berlin où mercredi 23 juin se tiendra une conférence internationale sur la paix en Libye avant de se rendre à Paris puis à Rome la semaine du 28 juin. 1,5 million de réfugiés syriens sont arrivés au Liban en plus de 10 ans. À 48 heures de la journée mondiale des réfugiés ce dimanche, le sort de centaines de milliers de familles syriennes contraintes de fuir, de quitter leur foyer et plus que jamais menacées. En effet, la crise profonde du Liban, principale terre d'accueil du voisin syrien, aggrave toutes les difficultés socio-économiques préexistantes. Pour aider ces réfugiés, l'association Colomba de la communauté Jean 23 assiste les familles installées dans les camps à 5 km à peine de la frontière syrienne. Alberto Capanini en est le responsable. Il témoigne à notre micro de leurs conditions de vie.
Jusqu'à il y a quelques mois, la question de pouvoir se nourrir ne se posait pas. Aujourd'hui, la crise libanaise s'ajoute à l'impossibilité de rentrer en Syrie, de trouver un travail, de trouver des papiers ou pour 40% des enfants, d'aller à l'école. La famine se superpose à tout cela. Si tu es réfugié syrien au Liban, la vie est vraiment difficile. Tu n'as pas d'avenir car le Liban ne pourra pas accueillir indéfiniment. Nous vivons dans un camp de réfugiés du nord à quelques kilomètres de la frontière syrienne. Les personnes vivant dans les camps rêvent de tout ce que souhaite un être humain, la sécurité, pouvoir manger, travailler. En ce moment, en fait, elles rêvent d'un miracle, que les conditions en Syrie s'améliorent. En dehors de vivre sur les camps avec les réfugiés, nous les aidons dans la vie quotidienne, par exemple à passer les checkpoints pour aller à l'hôpital ou entre autres à faire passer les plus fragiles par les corridors humanitaires pour trouver du soutien en Italie et en France. Autrement, ces personnes seraient mortes et nous nous interrogeons si l'Europe ne peut être leur maison, qui peut donc l'être ?
Des propos recueillis par Elvira Ragosta de la rédaction italienne de Radio Vatican. Et une bonne nouvelle au moins venue du pays du Cèdre, moins d'un an après l'explosion sur le port de Beyrouth, l'église Saint-Joseph, fortement endommagée, vient de rouvrir ses portes au cœur de la capitale libanaise. Sa reconstruction et restauration a été rendue possible grâce à l'organisation Aide à l'église en détresse. Un nouveau naufrage de réfugiés a eu lieu hier au large des Canaries. Au moins 4 personnes sont décédées dans le retournement d'un bateau près de l'île de Lanzarote. Malheureusement habituées à ce genre de drame. Et face à cette crise migratoire chaque jour plus patente, la conférence espagnole des religieux lance un cri d'alerte à l'Europe, réclamant aujourd'hui dans un communiqué la facilitation des voies d'immigration sûres et légales et plaidant en faveur de politiques d'accueil intégrales. Le reste de l'actualité religieuse aussi marquée par cette messe qui aura lieu demain matin 10h en la basilique Saint-Pierre de Rome. Et célébrée par le cardinal nigérian Francis Arinze, elle sera dite à l'intention de toutes les victimes du terrorisme au Burkina Faso et en Afrique subsaharienne. Une initiative de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements à la suite des récentes attaques survenues notamment à Sol'an au Burkina. Une messe que vous pourrez suivre bien sûr avec commentaires en français sur la page Facebook Vatican News. La rencontre était très attendue. Les présidents Joe Biden et Vladimir Poutine se sont retrouvés mercredi à Genève pour un premier dialogue. 3 heures de discussion, plutôt informelle selon la presse, et pas d'apparition commune devant les journalistes, mais des propos distillés des deux côtés pour saluer l'événement. Du côté de Moscou, l'on parle d'une discussion franche et directe. Le lendemain de la rencontre, le Kremlin s'est réjoui du retour au bon sens des États-Unis. Washington, de son côté, décrit un dialogue aux tonalités positives. Après les attaques à distance, Joe Biden avait qualifié Vladimir Poutine de tueur en mars dernier, s'attirant les foudres du Kremlin. Le face-à-face semble désormais apaisé, mais très peu de résultats concrets, si ce n'est le retour des ambassadeurs dans leurs pays respectifs. Alors qu'attendent les États-Unis et la Russie de l'un et l'autre ? La réponse de Jean-Sylvestre Montgrenier, il est chercheur associé à l'Institut Thomas More.
Ce que les États-Unis voudraient, c'est essayer de stabiliser cette relation stratégique qui est particulièrement difficile. Du côté russe, il s'agit avant tout de se faire reconnaître comme superpuissance, d'afficher ce statut de superpuissance. Et le seul fait d'avoir obtenu ce sommet, qui n'était pas prévu il y a encore quelques mois, est considéré par la Russie comme une victoire diplomatique. Donc il y a véritablement une dissymétrie de part et d'autre. La Russie est très loin de ce que les États-Unis peuvent représenter en tant que puissance globale.
Et depuis 1999, Vladimir Poutine a vu défiler 5 présidents américains. Est-ce que finalement la stratégie russe change selon le président américain en face de lui ?
Ah non, il a sa propre vision du monde, il se pose comme un rassembleur des terres russes, et la Russie veut récupérer tout ou partie de ce que l'on appelle aujourd'hui l'espace post-soviétique, et donc forcément au détriment des différents États souverains, indépendants, qui se sont constitués au moment où l'URSS s'est défaite. Alors c'est pas simplement des propos théoriques, ça n'est pas simplement une expectative, il suffit de considérer la Géorgie en 2008, et puis finalement la reprise de contrôle d'une partie du Caucase l'an dernier en instrumentalisant l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. Il suffit de regarder l'Ukraine en 2014. Alors au-delà de cet activisme à l'intérieur de ce que la Russie considère être l'étranger proche, il y a bel et bien une volonté de projeter la puissance russe au Moyen-Orient, en Afrique. Ça n'est pas indexé sur la vie politique intérieure, électorale américaine et les différents présidents américains qui sont issus des scrutins aux États-Unis.
Interrogé par Marine Henriot, Jean-Sylvestre Montgrenier, chercheur à l'Institut Thomas More, était ce vendredi l'invité de Radio Vatican. Ainsi, ça s'achève cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain matin 8h30 en direct de Rome. Excellente soirée.